France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, sociologue et anthropologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un ou l'une d'entre eux, d'entre elles, vient nous en parler. Et aujourd'hui, notre invitée, philosophe et écrivaine, n'a pas seulement choisi le livre qui a marqué sa vie, mais le tout premier livre qu'elle a lu dans sa vie. Celui qu'on découvre dans l'enfance et qui reste, celui qu'on ouvre peut-être plus passé nos 10-12 ans, mais qui laisse des traces, sont-elles invisibles? Celui qu'elle a choisi, vous l'avez peut-être aussi eu entre les mains, et si son auteur vous est inconnu, son héroïne, sûrement pas.
Mécanos. Je dessinais et j'ai commencé à écrire déjà assez tôt, enfin ça s'est précisé plus tard. Et je lisais tout ce qui me tombait sous les yeux. Et déjà, comme mon père me faisait lire des choses qui étaient avancées pour mon âge, vers 8 ou 9 ans, je lisais les ouvrages d'anticipation, Jules Verne ou des ouvrages de Conan Doyle ou de science-fiction. Et je me suis déjà documenté, j'ai rempli mon cerveau comme un accumulateur que l'on charge, et par la suite, tout ce que je me suis fourré dans la tête, ça m'a servi pour écrire les fantômettes. Donc je suis sorti de l'ennui de l'école en m'évadant dans l'écriture.
Bonjour Hélène Frappa.
Bonjour.
Bienvenue dans Le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, écrivaine, traductrice. Votre roman « Trois femmes disparaissent » vient tout juste de paraître en poche hier. Si je ne me trompe pas, le 2 janvier.
Oui, ou aujourd'hui, je ne sais plus.
Ou aujourd'hui. Oui. En tout cas, c'est maintenant. Mais vous venez nous parler de votre texte fondateur, votre souffle de la pensée, c'est Fantômettes. Alors pourquoi?
Alors quand vous m'avez posé la question, j'ai repensé finalement à ce livre. J'ai pensé à d'autres livres, mais finalement que j'avais lu tardivement, qui ont pu me marquer, notamment des livres de Stanley Cavell, mais
Le philosophe américain,
dont d'ailleurs le livre auquel j'ai pensé, Le cinéma nous rend-il meilleur, n'est pas si éloigné des questions que pose Fantômettes. Et puis je suis revenue à la source, à la matrice, c'est-à-dire au livre non seulement que j'ai lu, en effet que j'ai découvert quand j'ai appris à lire, mais que j'ai continué à lire, relire, voire réécrire des années, voire des décennies plus tard.
Vous avez arrêté de lire quand, Fantômettes?
Jamais, en fait.
Non, c'est vrai, oui. Vous continuez à les lire?
Oui, en fait, ça m'arrive encore. Et je vous dis, je me suis même glissée dans les pas de Fantômettes. Et certains des premiers romans que j'ai pu écrire, j'ai fait 2 remakes de Fantômettes quand j'avais une vingtaine d'années. Et même plus tard, peut-être, je pense une trentaine d'années, qui sont restés dans mes placards. Dont un qui s'appelait Loi Blanche, L-O-I Blanche, avec une histoire de couteau. Parce qu'elle joue beaucoup du couteau, du poignard, Fantômettes. Donc non, c'est resté vraiment, c'est resté en moi. J'ai grandi, j'ai continué à grandir avec elle.
Mais c'est un petit peu paradoxal parce que le premier livre qu'on lit, c'est quelque chose qui nous engage, mais comme j'ai dit, qui reste mais de manière invisible. C'est-à-dire que revendiquer, voire même assumer quand on écrit, quand on traduit, quand on est philosophe comme vous, que ce soit Fantômettes, sa première influence, ça peut virer à la blague ou à l'anecdote. Qu'est-ce qui reste alors de Fantômettes?
Alors moi, j'adore les blagues, mais je déteste par exemple le second degré. Hein, et vraiment, comment dire?
Ah non.
Et
oui. Vous détestez le second degré?
Oui, le second degré. J'adore l'ironie, qui n'est pas le second degré. Il y a de l'ironie, il y a beaucoup d'ironie d'ailleurs dans l'écriture de Georges Cholet. Et j'ai jamais, c'est vrai qu'au fond, j'ai commencé un peu, c'est un peu ce que ça me touche, ce que dit Georges Cholet, parce que c'est vrai que je pense que j'ai eu des lectures très clivées. C'est-à-dire, j'ai commencé dès que j'ai appris à lire, je n'ai fait que ça. C'était vraiment, j'ai appris à lire, donc comme tout le monde, à 6-7 ans. C'est l'époque où mon père a disparu, enfin il est mort, il s'est suicidé. Donc je pense que je me suis concentrée entièrement sur la lecture. lectures, je n'ai fait que ça. Et j'ai eu très tôt des lectures à la fois pas du tout de mon âge, Balzac, Hugo, et très vite même à, je sais pas, 9-10 ans, Proust et tout. Mais aussi Fantomette, Fantomette, le Club des Cinq, mais surtout Fantomette. Et elle ne m'a jamais, c'est vrai qu'elle ne m'a, jamais quittée. Alors sans doute, sans aucun doute, il y avait quelque chose dans ce petit fantôme, cette petite fantôme qui me touchait énormément. Et puis je pense qu'aussi que quand on écrit, ce que j'ai aussi fait en même temps, j'ai écrit aussitôt que j'ai lu, eh bien il y a quelque chose de l'enfant, de la petite fille, du petit garçon qui reste en nous et qui ne grandit pas. Enfin. Oui, non, qui ne grandit pas. Donc, je pense qu'une part de moi est restée quand j'écris à cet âge de 7 ans avec cette petite fantomette enquêtrice.
Et en particulier, qu'est-ce qui reste? Parce que c'est vrai, vous avez raison de le souligner, Hélène Frappat, dans cette archive de Georges Chollet, c'était au micro de Philippe Garbit dans l'émission Mauvais Genre en 2011. Il dit que tout ce qu'il a accumulé pendant l'enfance, il l'a ressorti dans Fantomette. Vous avez tout de suite employé le terme d'enquêtrice. Alors effectivement, quand on est philosophe, il y a l'enquête en philosophie qui est là. Mais est-ce qu'il y a d'autres pans de cette petite fille qui continue à vous marquer, par exemple la dimension féministe, vous avez écrit sur le gaslighting, la dimension aussi peut-être de l'écriture romanesque, c'est-à-dire vraiment de rechercher, peut-être à traquer des secrets, des mystères.
Alors déjà, c'est l'entretien de Philippe Garbit est génial, en effet, et c'est important qu'il soit dans cette émission Mauvais Genre, parce que je pense que c'est aussi une réponse à apporter, ce que je disais sur cette question du second degré. Je pense qu'il faut rien... Moi, j'ai pas de rapport et de regard hiérarchique, disons, sur mes lectures, hein, mes anciennes lectures. La question qui est posée parfois sur les guilty pleasures, est-ce qu'on a honte de lire certaines choses et tout, je l'ai jamais comprise. Je pense que... Voilà, et donc j'ai pu associer... et je peux encore associer Fantomette et je citais Proust par exemple, ça pourrait être, je sais pas, Wittgenstein si on parle d'enquête philosophique. Donc déjà il y a cette idée là en fait que je fais pas de hiérarchie de genre justement. Alors après oui, je pense qu'il y a eu cette question de l'enquêtrice, de cette petite fille, déjà d'être du point de vue de la petite fille. Entièrement, qui est pas un point de vue si fréquent, même aujourd'hui, je pense. Hein. Alors quand j'étais moi lectrice, quand je l'ai découverte probablement à peu près à l'époque où sont sortis, je sais pas exactement quand Georges Chollet a commencé à publier Fantomette. Moi, je l'ai découvert dans les années 70 avec des illustrations qui me faisaient rêver. Mais
alors c'était en 61 le premier.
Ah oui.
Les
alors,
exploits de Fantomette 61.
Ok, donc moi je l'ai découvert 15 ans après. Mais il y a voilà, d'abord je parlais de clivage. Il y a du clivage, c'est-à-dire que c'est une petite fille. En même temps, elle est complètement orpheline. Alors moi, je l'étais à moitié, mais une part de moi souhaitait peut-être l'être entièrement, je ne sais pas. Mais il y a cette idée, en tout cas, de l'indépendance totale. Elle est toute seule chez elle. Elle a deux identités. Elle est une espionne, ce qui est sans aucun doute l'une des, pour moi, caractéristiques de ce que fait un écrivain. Hein, espionner, regarder. Elle a une sorte de regard extra-lucide sur la réalité. Elle a deux noms, deux identités. Elle se fait son café toute seule chez elle le matin.
Ouais, ça c'est génial.
Voilà. Elle est
En suivant des cours d'aérobic.
Elle est trois. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte des affinités, parce que je crois pas au hasard. Comme Fantomette, je ne crois pas au hasard. Je crois plutôt à, comment dire. Au fait que tout est sous nos yeux, tout est sous nos yeux, comme un autre, pour citer un autre détective célèbre, Dupin, hein, le détective d'Edgar Allan Poe, tout est sous nos yeux, mais encore faut-il apprendre à le regarder, à le déchiffrer. Donc voilà, il y avait cette idée de l'enquête, et il y avait cette idée aussi probablement que pour un enfant, pour une petite fille, pour la petite fille que j'étais, il y avait disposé devant elle un certain nombre de secrets, de choses qui n'étaient pas dites, de choses qui étaient dissimulées. Et il en allait de la vie aventureuse, mais il en allait aussi de la survie d'être curieuse et d'enquêter. Et je pense que l'une des choses qu'a pressenti Georges Chollet, alors le terme de féministe, c'est lui qui le revendique, hein, Georges Chollet lui-même, hein, il s'est revendiqué comme écrivain, on pourrait dire écrivain, écrivaine féministe, mais il a compris sans doute cette chose assez bouleversante que il en va de la survie d'une petite fille, c'est-à-dire d'une future femme, de s'armer de cette curiosité qui est celle de Fantomette, dont la seule arme, je le répète, alors elle a un petit poignard, mais la seule arme de Fantomette, c'est son intelligence.
Une question encore sur cette découverte. Hélène Frappa, vous l'avez dit, vous avez appris à lire comme tout le monde à l'âge de 6-7 ans. Donc c'était votre première lecture. Est-ce que vous vous en souvenez de ce moment-là?
Ah oui, je me souviens de
l'exaltation,
vraiment...
de...
Ça a été pour le coup une question de... Enfin, ça a été la plus belle chose. Ça a été la découverte de la liberté, pour le dire en un mot très précis. Enfin, c'était ça, c'est-à-dire cette la découverte de la liberté, parce que l'expérience pratique de la liberté. Je pense que l'être humain a peu d'expériences pratiques. C'est une question politique hein, et éthique aussi. Où avons-nous des expériences pratiques de liberté, c'est-à-dire en fait d'émancipation, hein, qui serait la forme pratique, concrète, incarnée de la liberté. Je pense que la lecture, sans aucun doute, en est une. L'écriture est le prolongement de la lecture. Hein, c'est une lecture qui se prolonge en fait. De même que, comme disait Henri James, et je pense que ça a à voir avec Fantomette aussi, là. Qu'est-ce qu'une femme, sinon une petite fille qui a grandi? Qu'est-ce qu'un écrivain? C'est un lecteur qui se prolonge à travers l'écriture. Donc voilà, c'est ça que j'ai découvert. C'est pas la question de la fuite, hein. C'est pas la question de fuir dans la lecture. Non, au contraire, c'est la question de, à travers l'enquête, précisément, et des enquêtes de Fantomette, d'accéder à une élucidation, d'accéder finalement à ce que maintenant je nommerais, et que j'aurais pas pu nommer comme ça évidemment à 7 ans, ce lien très concret, très incarné entre l'élucidation et l'émancipation. L'émancipation que nous offre l'élucidation. Tout ça, c'est déjà dans Fantomette.
Mystérieuse justicière que seules ses victimes avaient pu voir, et qu'elle décrivait comme une jeune fille masquée avec une cape noire fermée par une agrafe d'or en forme de F. On ne savait pas grand-chose de cette aventurière, sinon qu'elle semblait opérer généralement la nuit et sans aucune aide. Elle s'était signalée pour la première fois 3 mois plus tôt, à la suite d'un appel lancé depuis une cabine téléphonique publique. Police Secours avait découvert dans la dite cabine un homme assommé et proprement ligoté. Il portait, épinglé au revers de son veston, une carte de visite, marquée d'un nom, Fantomette. Il avoua être l'auteur d'une série de cambriolages. Une semaine après, on trouvait enfermé dans une cave l'escroc Godillot, qui avait soutiré l'argent de nombreuses victimes en se faisant passer pour un démarcheur à domicile. 2 mois plus tard, un jeudi après-midi, un gang tentait un audacieux hold-up contre la banque du Crédit Central de Framboisie. Tenant le caissier et le personnel sous la menace d'une mitraillette, les bandits remplirent rapidement un sac de liasses de billets et prirent la fuite dans une voiture. Comme ils allaient tourner en trombe le coin de la rue à cette heure déserte, une bouteille d'huile lancée d'on ne sait où vint atterrir devant les pneus de l'auto qui dérapa, fit un tête-à-queue et s'écrasa contre un réverbère. Les employés de la banque accoururent et retirèrent les bandits de l'auto. Ils étaient en piteux état. On aperçut alors un nom tracé à la craie sur le capot de la voiture. Fantomette. Et voilà que l'étrange justicière se manifestait de nouveau.
Au début des années 60, Georges Chollet, déjà auteur de romans pour la jeunesse, constate que les jeunes filles sont de grandes lectrices, mais qu'il existe très peu d'héroïnes féminines, d'où son idée de créer le personnage de Fantomette. Et voici, comme on l'a entendu, ce personnage apparaître à la page 7 des exploits de Fantomette, paru en 1961. C'est le portrait. Fantomette est écrit en lettres majuscules, Hélène Frappa. C'est un costume et c'est un nom laissé soit à la craie, soit sous forme de carte de visite.
C'est un masque, c'est un costume, elle est stylisée, elle est aussi stylisée que, je pense à une actrice que j'ai adorée, qui est Musidora, qu'on voit dans les films dans les films de Feuillade, qui est cette sorte de femme chat qui circule sur les toits la nuit. Plus tard, il y aura dans les films de Rivette, que j'ai adoré aussi, dans Céline et Julie vont en bateau, des jeunes filles déguisées en fantomètes. Et d'ailleurs, Jacques Rivette adorait Fantomette, on en avait parlé, comme ça, qui vont aussi sur les toits la nuit, elle a quelque chose de félin. Et elle est masquée, elle est double, en effet. Elle est du côté du masque, elle n'est pas du côté de la mascarade, féminine, qui minaude. Elle est plus du côté du masque et elle est aussi du côté de la loi. Je pense que c'est puisque c'est une justicière. Tout ça m'a aussitôt fascinée. Mais en effet, c'était l'idée pour lui de faire en sorte, enfin, de donner aux lectrices, la majorité des lecteurs sont des lectrices, un modèle d'héroïne à laquelle s'identifier. Et je pense que moi, je l'ai aussitôt prise comme modèle d'écrivaine, d'une certaine manière.
Il y a elle est très peu, elle parle très peu, Fantomette. Moi, je vais vous dire honnêtement, Hélène Frappa, en fait, je crois que je n'avais lu aucun Fantomette, ou si j'en ai lu un, c'était vraiment, voilà, au milieu du Club des Cinq, de la Comtesse de Ségur. Pour moi, c'était un personnage parmi d'autres. Elle m'a pas frappé tant que ça. Et donc, grâce à vous, j'en ai lu quand même 3-4 pendant les vacances. C'était très agréable. Vous m'avez conseillé Fantomette et le Brigand, et notamment Fantomette à la mer de sable. Et puis, j'ai lu ce premier, Les Exploits de Fantomette. En fait, elle parle pas beaucoup, Fantomette. Elle est accompagnée de Boulotte et Ficelle, ses deux acolytes.
Elles sont trois.
Alors Boulotte, son nom l'indique très bien. On n'est pas à l'époque où on dénonce la grossophobie. Donc Boulotte passe son temps à manger.
Tranquillement d'ailleurs, il n'y a aucun regard.
Il n'y a pas de jugement moral.
Aucun.
Si ce n'est celui quand même de Ficelle, qui est donc la troisième et qui dit à Boulotte qu'elle passe son temps à boulotter, à manger. Et puis il y a donc aussi Ficelle, dont on ne cesse de dire qu'elle a les cheveux filasses, qu'elle est grande, maigre et bébête, alors qu'en fait elle est très imaginative. Au début de Fantomette à la mer de sable, elle imagine un dictionnaire des mots farfelus. Voilà, elle est pleine d'imagination, mais complètement à côté de la plaque. Et c'est vrai qu'à côté de ces deux personnages, Fantomette, elle est presque un peu en creux.
Oui, elle a presque, je dirais, une forme d'esprit de sérieux, mais qui, je pense, moi, me plaisait d'ailleurs.
Ça plaît aux enfants, en fait, le côté un peu droit.
Le côté droit, le côté, même si, effectivement, elle a une sorte de vie, je disais, clivée. Enfin, elle a une vie d'adulte, elle a une sorte d'acolyte qui est Œil de Lynx, un journaliste qui, lui, est franchement adulte, qui se retrouve au milieu de ces bandes de petites filles. Alors, Ficelle, oui, c'est un personnage intéressant parce qu'elle est du côté du jeu de langage. Elle ne cesse, en effet, à la fois d'être dans une forme de littéralité vis-à-vis des mots, du sens des mots, et puis d'inventer. Donc, il y a toutes les facettes. Il y a le plaisir, on pourrait dire le plaisir oral de la bouffe, enfin des gâteaux, incarnés par Boulotte. Il y a le plaisir oral du langage. Et puis, il y a ce regard de Fantomette, qui est pas un regard qui cherche à voir, mais qui est un regard qui cherche à savoir. Elle a, et c'est ça, je pense, moi, qui m'a tellement captivée, littéralement, qui fait que elle a un masque, un petit masque, un loup, comme on disait, je pense, un petit loup sur les yeux, et elle est cette sorte de chat de gouttière qui vit la nuit, qui peut qui transgresse, qui en fait ne cesse de transgresser tout ce qui est autorisé aux enfants et en général et particulièrement aux petites filles, et en même temps qui incarne la loi. Donc cette sorte de rapport double et en même temps non conflictuel de la loi et de la transgression, je pense que c'est irrésistible en fait.
Mais
pour une petite fille, la petite lectrice que j'étais.
Mais je le disais, par exemple, elle a un côté un petit peu effacé au début des exploits de Fantomette. On ne sait pas encore. On découvre les premières pages. En fait, c'est pas sur Fantomette, c'est sur Françoise Dupont qui va se révéler être Fantomette. Et Françoise Dupont est juste une petite fille assez ennuyeuse. C'est la meilleure de la classe. Elle arrive à résoudre un problème de géométrie alors que tout le monde est en train à moitié de dormir dans la classe de Mademoiselle Bigoudi, qui est donc l'institutrice. Elle a un côté Madame Je sais tout, qui est franchement agaçant, à l'inverse, par exemple, d'autres héros ou super-héros qui vont avoir un côté un petit peu, on pourrait dire, plus sombre, plus torturé, qui vont avoir une histoire. Là, il y a quelque chose, en fait, de Fantomette qui n'apparaît jamais au fur et à mesure des épisodes.
Oui, je pense que l'esprit de sérieux de Françoise, hein, Françoise
Dupont.
Dupont, voilà. Alors,
voilà, Françoise Dupont,
voilà,
qui t'ai dit.
Moi qui n'étais pas, enfin, qui ne me sentais pas vivre dans un monde, disons, très français, il y avait quelque chose du côté de la France qui était complètement fascinant quand j'étais petite. Effectivement, elle habite à Framboisy.
Une ville fictive, je le souligne.
Elle s'appelle Françoise Dupont. Il y a des signes comme ça de francité, de francitude avec lesquels joue complètement Cholet, qui sont qui me fascinaient assez, et en même temps qui sont du côté de la fiction. Enfin, il a parlé très bien de la science-fiction. Mais je pense que ce qui est la poésie involontaire, pour employer un terme des surréalistes. Il y a quelque chose du côté de la poésie involontaire, comme chaque univers d'ailleurs de littérature enfantine. Moi, j'étais pas tant que ça branchée littérature enfantine. J'ai lu très tôt des trucs qui étaient absolument pas de mon âge, mais il y avait quelque chose. Alors, c'était pas la poésie involontaire, disons, de Enid Blyton qu'on trouve. Enid Blyton. Grande écrivaine anglaise d'ailleurs.
Le Club des Cinq. Hein.
Le Club des Cinq qui a été adapté, un peu tronçonné d'ailleurs, c'est pas vraiment son texte qu'on trouve dans la version française. Mais il y avait quelque chose du côté de la poésie d'une Bretagne fantasmatique, c'était en fait la Cornouaille, etc. Là, chez Fantomette, c'est plus du côté de la double vie, je pense. Mmh. Et en effet, de toutes ces caractéristiques qui, maintenant, que je vois très clairement être celles de l'écrivain, c'est-à-dire ce que vous, très justement, vous décrivez comme quelqu'un, une héroïne en retrait, elle est en retrait autant que, pour citer toujours Henry James, qui est un de mes écrivains préférés, l'écrivain qui, dit-il, regarde derrière la vitre ce qui se passe. Elle observe, elle interprète les signes, elle voit la réalité derrière, autour d'elle comme une énigme qu'il faut déchiffrer. Comment dire ? C'est ça, en fait. Elle a au fond, je pense, quelque chose. Et je pense que si Georges Scholler, je ne sais pas s'il l'a dit, mais il aurait pu dire « Fantomette, c'est moi », sans aucun doute. Mais c'est lui aussi... en tant qu'écrivain, et c'est ça que j'ai pressenti, je pense, dès que je l'ai lu.
Vous parlez de double vie, ce qui rejoint la dimension masquée de Fantomette. Pourquoi on ne peut pas voir aussi quand même cette dissimulation, paradoxalement, qui est une condition pour exister pour Fantomette. Elle ne vit que parce qu'elle existe uniquement parce qu'elle est cachée. Mais d'une certaine manière, on pourrait juste se dire que Françoise se cache. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être... ce qu'elle a envie d'être réellement. À un moment donné, dans Fantomette à la mer de sable, que vous m'avez suggéré, Hélène Frappat, de lire, Ficelle a des doutes. Et Françoise lui dit « Et si j'étais réellement ?» Et le « réellement » est écrit en italique « Fantomette ». Et Ficelle dit « Mais non, tu es beaucoup trop bête. » Mais voulant dire par là, par jalousie, tu es trop parfaite, trop intelligente en fait. Donc, il y a quand même le fait de se masquer est quand même pas vraiment un signe d'émancipation ici. C'est vraiment aussi le signe de ne pouvoir pas être au grand jour Fantomette. On n'accepterait pas qu'une petite fille soit une justicière.
Alors peut-être c'est un signe d'émancipation pour une petite fille. C'est-à-dire effectivement, ce que vous dites, c'est très juste. Ça me fait penser qu'au fond, peut-être que le seul vrai suspense, le suspense le plus haletant dans ces livres, c'était « Mon Dieu, va-t-elle être découverte ?» Et moi, j'avais aucune envie, Va-t-elle le dire ? Va-t-elle faire son coming out de Fantomette ? Alors, il n'y aura jamais de coming out de Fantomette. Enfin, en tout cas, je n'ai pas lu le dernier. Je n'ai jamais voulu lire le dernier Fantomette amoureuse.
On va vous dévoiler tout ça.
Mais effectivement, il faut qu'elle reste planquée. Alors, c'est pas l'idée de Fantomette dans le in the closet. Hein. C'est pas. Je pense pas que ce soit ça, parce que précisément, elle est une petite fille et que sa liberté. Je parlais tout à l'heure de la question de la liberté dans la lecture. Ça a à voir avec la liberté de la fiction, mais peut-être aussi pour un enfant, comme l'a dit, je crois, Freud, ça a à voir avec ce moment où être mytho, mentir, imaginer. C'est aussi une expérience concrète de la liberté. Donc, ce qu'elle vit là dans cette dissimulation, ce qu'elle vit là dans cette double vie, ce qu'elle vit là dans cet espace complètement imaginaire, c'est sa liberté à elle. Et c'est la liberté qui n'est pas donnée, alors, particulièrement dans les années 60 quand il a écrit, mais même, est-ce qu'elle l'est encore? Qu'est-ce que c'est qu'une petite fille libre? Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille libre? Qu'est-ce que c'est qu'une jeune femme libre? Je répondrais, c'est une utopie, en fait. C'est une utopie, littéralement, enfin, étymologiquement, un lieu qui n'existe pas, en fait. Donc, c'est ça aussi que raconte, je pense, à toutes les petites filles et à tous les lecteurs qui sont aussi des petites filles. Je pense que c'est pas juste une question numérique et une question statistique si l'écrasante majorité des lecteurs sont des lectrices. C'est que probablement, il faut être une petite fille, quel que soit notre genre, pour être vraiment un vrai lecteur, un bon lecteur comme Fantomette.
C'est-à-dire quelqu'un qui n'ose pas prendre la parole, quelqu'un qui... Parce qu'après, tous les enfants, en fait, c'est l'étymologie de l'enfant.
La passion de savoir, qui a cette passion de savoir comme survie, pas comme hobby, pas comme on le voit souvent avec des petits héros masculins dans la littérature enfantine ou ailleurs, qui fait une collection de timbres ou je sais pas quoi. Mais quelqu'un qui sait que si il va pas apprendre à déchiffrer, bah, il va crever, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension de survie, y compris dans ce lieu complètement absent qui est celui de la famille. Pourquoi est-ce que la famille est absente?
Ouais.
J'avoue que je ne me suis jamais posé la question, même si probablement une part de mon cerveau de petite fille y avait répondu, puisque c'est un, comment dirais-je, qui sont ces fantômes? Qui sont ces fantômes? Il y a quand même ce nom fantomette, moi, qui m'a... Enfin, c'est une petite fantôme, voilà. Qui est cette petite fantôme? Quelle est cette part fantôme de cette petite fille qui survit en se faisant elle-même la loi dans une maison sans famille? A-t-elle fui sa famille où il n'y avait pas de loi? Toutes ces questions-là, elles sont invisibles, aussi invisibles que fantomètre, comme un chat de gouttière. Elle va très agilement, très habilement circuler sur les toits la nuit, mais elles sont là en filigrane, en fait.
Mais c'est ça qui est fou, c'est que fantomètre passe son temps à faire des enquêtes, à traquer des objets disparus, des bijoux qui disparaissent, des brigands qui lui échappent. Et la question majeure de qui est-elle, de cette enquête sur soi, sur elle-même, sur soi-même qui nous agite tous quand même dans notre existence, elle ne se la pose jamais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'intériorité et même presque elle n'a pas de singularité.
Alors moi je pense qu'elle en a une gigantesque.
Alors laquelle ?
Et que voilà, c'est la question du point de vue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Georges Cholet aurait pu dire et a peut-être dit et probablement s'est dit en rigolant, comme on voit il avait beaucoup d'humour incontestablement, fantomette c'est moi. Je pense que la question du point de vue c'est que elle est cette enveloppe vide ou pas si vide, elle est ce fantôme qui permet à chaque lecteur et à chaque lectrice de se la poser. Cette question-là, c'est ça qui est très fort chez Fantomètre, c'est que effectivement, Ficelle monologue. On sait qui est Ficelle, elle ne cesse de parler, de parler. Boulotte aussi, elle ne cesse de manger et de parler, les deux activités étant réversibles. Elle, il y a un moment très beau dans J'ai relu Fantomètre dans le piège, où Fantomètre réfléchit devant son miroir, alors elle a ce tic qui consiste à enrouler ses boucles noires, et Georges Cholet écrit, et le miroir réfléchit avec elle. Alors évidemment, il y a un jeu de mots sur la réflexion du miroir qui lui renvoie son reflet, etc. Mais il y a quelque chose comme ça où elle est celle qui réfléchit. Être fantomète, c'est réfléchir au double sens du terme, d'être celle qui a l'intelligence, ce qui n'est pas rien pour un personnage féminin du tout. Et c'est ça son véritable exploit. Et non pas que les petites filles soient bêtes, mais que cet attribut de l'intelligence ne leur a avant fantomète était rarement ou peut-être même jamais, je ne sais pas, attribué comme unique attribut de comme unique arme. Et en même temps, elle est celle qui réfléchit, c'est-à-dire qui renvoie à sa petite lectrice ou à son petit lecteur ce miroir qui est qui es-tu toi qui me regarde fantôme qui te renvoie la question aussi de ta propre vie et de ta propre survie. Je pense que toutes ces questions-là qui sont des questions d'enquête, et les questions d'enquête, c'est les questions les plus existentielles et les plus philosophiques, en fait. On les retrouve même liées, c'est probablement ce qui relie la pratique de l'écriture romanesque et de l'écriture philosophique. Hein. Qu'est-ce que l'homme, pour citer la quatrième question anthropologique, qui est celle qui, selon Kant, dans la critique de la raison pure, résume toutes les questions. Mais je pense que cette question-là, elle nous la renvoie. C'est de la question réflexive. Qui
donc,
toi
Fantomètre pose la quatrième question posée
absolument.
Par Kant. Qu'est-ce que l'homme?
Mais Fantomètre pourrait tout à fait avoir cette petit esprit de sérieux et cette ironie en même temps qui caractérise l'enquêteur kantien.
Mais ce qui veut dire que Fantomètre, c'est un modèle ou au contraire, c'est pas un modèle puisque c'est quelqu'un, quelqu'une à qui on peut s'identifier et donc qui est assez vide.
Fantomètre, c'est une méthodologie. C'est pour ça que finalement, ce que
donc
vous...
Pas une méthode, voilà. Pas un modèle, une méthodologie.
C'est pour ça qu'elle est pas vide. Hein. C'est pour ça qu'elle est pas réservée. C'est pour ça qu'elle est pas dans le placard. C'est pour ça qu'elle se planque pas. Elle est une méthodologie en tant que telle. La méthodologie de l'intelligence, la méthodologie d'un regard qui est pas un regard fétichiste. On pourrait se dire, est-ce qu'elle est branchée SM avec tous ses masques, ses loups, ses trucs? Non, elle est branchée savoir. voir, pas voir, en fait.
La curiosité de savoir et pas de voilà, voir.
Exactement. Elle est branchée comme on pourrait. Moi, elle me fait penser finalement à une des héroïnes que j'ai découvert bien après, des décennies plus tard, qui sont celles d'Angela Carter quand elle va réécrire, l'écrivaine anglaise, tous les contes traditionnels, notamment Barbe Bleue, en les réécrivant du point de vue de la petite fille, d'une certaine manière. La petite fille, la petite héroïne qui veut pas, qui doit, pour sa survie, doit justement s'emparer, alors pour citer Barbe Bleue, non pas de la clé, on dit toujours, il y a une clé, le mari de Barbe Bleue donne à sa dernière femme une clé. Pas du tout, il lui donne un passe-partout. Très important. Et en même temps, il lui dit, en fait, non, tu vas pas passer partout. C'est ça qui est génial, c'est que Fantomette, c'est celle qui s'empare du passe-partout et qui littéralement, elle a ce que les voleurs pour citer une autre figure que j'adore, qui est totalement inconnue en France, parce que c'est une figure italienne, qui est celle de Diabolique, Diabolique inventée par deux femmes, les sœurs Giussani dans les années 60, pile à la même époque que Fantomette à Milan, deux femmes qui décident, qui sont obsédées par Kant d'ailleurs, puisqu'elles vont, comme quoi décidément, tous recoupent. Le hasard n'existe pas, et donc elles vont donner comme fiancée très féministe à Diabolique, ce personnage absolument méchant, horrible, qui n'a aucune excuse, qui passe sa vie à tuer, à voler, une acolyte, pas du tout une fiancée, qui s'appelle Eva Kant. Donc, voilà, il y a cette idée-là, je me suis complètement perdue dans ces masques, je m'y suis perdue et je ne m'y retrouve plus.
Vous avez parlé.
Je m'y suis pas du tout perdue, puisque précisément, j'étais partie du passe-partout. Voilà, c'est la clé universelle de Diabolique, la clé universelle qui peut s'entendre comme celle du voleur qui va pouvoir piquer absolument, entrer dans toutes les maisons, mais qui peut s'entendre évidemment comme la clé universelle, la clé de l'intelligibilité. C'est ça qu'elle nous donne. C'est pour ça que je disais qu'il s'agit d'une méthodologie en fait.
Vous avez parlé beaucoup aussi, Hélène Frappa.
Passer partout, c'est un ordre.
Vous avez aussi beaucoup parlé de petite fille, Hélène Frappa. Vous empruntez ici, non pas seulement évidemment ces mots de la langue courante, mais aussi ces mots de Henry James quand il parle de Robert Louis Stevenson.
Tout nous ramène à la sympathie de Stevenson pour la jeunesse et à cette perception de la vie qui le conduit à considérer les femmes comme autant de filles superflues dans un jeu de garçons. Elles sont presque totalement absentes de ses livres, car elles n'aiment pas les bateaux, les pistolets et les batailles. Elles encombrent les ponts et requièrent des appartements séparés. Et pire que tout, elles ne sont pas du plus haut niveau littéraire. Pourquoi un homme se marierait-il quand il peut brandir un sabre d'abordage ou partir à la recherche d'un trésor enfoui? Pourquoi irait-il à l'hôtel quand il peut rester à polir sa prose? Voilà une de ces curieuses et, à mon avis, fascinantes contradictions que nous rencontrons dans l'esprit de M. Stevenson. Bien qu'il prenne un si grand intérêt à la vie enfantine, il n'en éprouve aucune pour la vie au foyer. À ses yeux, l'enfant normal est celui qui fuit le cercle familial, réellement quand il le peut, en imagination quand il ne le peut pas, déguisé en pirate. Les filles ne font pas ces choses-là, et les femmes ne sont rien d'autre que des petites filles qui ont grandi.
C'est cette phrase-là, Hélène Frappa, qui nous parlait aujourd'hui de Fantomette, qui vous a marqué dans ce texte qui n'a rien à voir avec Fantomette, a priori, qui est un texte d'Henry James de 1887 et qui parle ici de Stevenson et de ce grand paradoxe dans la littérature de Stevenson, cet intérêt pour l'enfance sans s'intéresser pour autant aux petites filles.
Oui, alors ça, c'est un de mes textes préférés. Il faut rappeler que Henry James et Stevenson étaient meilleurs amis. Au point d'ailleurs que Stevenson, quand il a écrit son roman absolument sublime qui s'appelle Le Maître de Ballantrae, a pris comme personnage deux frères ennemis. L'un s'appelle Henry, l'autre James. Et au point que Henry James, donc dans le texte que vous citez, a consacré un essai entier donc à son meilleur ami. Et aussi, ils ont, et ça c'est un de mes livres préférés, dont je parlais souvent d'ailleurs à l'époque avec Jacques Rivette, ils ont eu ensemble une correspondance extraordinaire. Et dans ce texte, James va vraiment, pour moi, faire un... Alors, je parlais de clivage, enfin, définir une sorte d'opposition qui me paraît, mais vraiment essentiel, existentiel, presque ontologique, qui est d'un côté la littérature de petits garçons, de l'autre la littérature de petites filles. Donc il y aurait d'un côté ce regard, dit James, enfin ce point de vue de Stevenson, qui est que au fond les petites filles ça l'emmerde. C'est pas que ça l'emmerde, ça l'intéresse pas. Pourquoi ça l'intéresse pas? Ça l'intéresse pas parce que la petite fille, particulièrement, moi je dirais à l'époque où ils écrivent, qui est l'époque victorienne de la petite fille avec sa petite robe empesée, sa petite robe qu'elle n'a pas le droit de salir, elle est obligée de rester dans sa chambre, bien propre, bien polie, elle n'a pas le droit de grimper aux arbres, de faire des aventures. Bref, elle ne peut pas être un personnage romanesque de Stevenson, lui qui n'aime que les pirates, les histoires d'aventuriers, donc de garçons qui grimpent aux arbres, déchirent leurs vêtements, se salissent, parcourent les mers, etc., etc. Donc, elle n'a pas un statut de personnage fictionnel. De l'autre côté, on a ce regard génial de James qui, lui, et c'est évidemment pas une question de genre, on le voit bien puisqu'il y a ces deux écrivains masculins, lui n'a écrit que de ce point de vue. Et quand il le dit, qu'est-ce qu'une femme? Ça n'est rien d'autre qu'une petite fille qui a grandi. Moi, c'est une phrase qui m'a bouleversée quand je l'ai lue il y a des décennies et qui ne cesse de m'accompagner. C'est pas une phrase du tout péjorative. C'est cette idée pour James, qui est lui-même une petite fille qui a grandi. Et je rappelle qu'il est l'auteur de ce livre extraordinaire, Ce que savait Maisie, l'un des premiers, peut-être même le premier, je ne sais pas, roman sur le divorce, vu entièrement par le regard d'une petite fille qui est, dit-il, écrit-il, comme une balle de ping-pong que ses parents se balancent. Et tout le monde va être vu à travers le regard de cet enfant. Cette petite enfant, précisément dans sa chambre, qui est comme l'est l'écrivain, au fond coincé, qui regarde par la fenêtre et qui est aliéné complètement dans un monde qui veut l'aliéner. Donc ça, c'est vraiment la matrice. Ce qu'a réussi Georges Cholet, c'est précisément de prendre cette petite fille et d'en faire cette aventurière de Stevenson. Il a fait la synthèse, au fond, entre James et Stevenson, d'une certaine manière, en disant « moi, je vais écrire les aventures de cette petite fille » qui sera à la fois celle qui observe et en même temps celle qui pourra grimper aux arbres, courir, avoir des aventures, entrer dans ce monde, dans ce vrai monde, dans cette réalité qui lui est interdite à l'époque où écrivent Stevenson et James, mais à mon avis, c'est pas un monde qui a changé, selon moi.
Donc, son arme.
Une réalité sociale, je veux dire, dans ce sens-là, oui.
Son arme à Fantomètre, ce n'est pas seulement l'intelligence, c'est aussi d'avoir, comment on pourrait appeler ça, une forme de courage à sortir de chez elle, ou au contraire, voilà, c'est que Georges Cholet a eu une sorte de génie à créer un personnage qui est précisément ce que dit James dans ce texte à la fin, c'est-à-dire une femme qu'on voit comme une petite fille. Je vous pose cette question-là, Hélène Frappa, parce que Fantomette vit comme une adulte. Elle se fait son café, elle va mettre de l'essence dans son cyclomoteur, elle poursuit des méchants la nuit, elle part comme ça avec Œil de Lynx, qui est quand même un adulte, en voiture avec lui pour faire un petit voyage en Savoie, qui est en fait une enquête à résoudre, c'est dans Fantomette et le brigand, et en même temps elle va à l'école avec son institutrice Mademoiselle Bigoudi, et elle a des très bonnes notes, elle a des A+, et elle est très fière. Donc qui est Fantomette si ce n'est en fait cette femme qu'on voit comme une petite fille?
Oui, c'est très juste. C'est les deux, en fait, pour répondre à votre question, je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire, elle est d'abord celle qui transgresse, en effet. C'est-à-dire, il y a, dans ce que dit James et qui est très fort, et je pense qu'il a été le point de vue de Georges Cholet, il y a cette idée que, au fond, quand il dit « qu'est-ce qu'une femme sinon une petite fille qui a grandi ?» On dirait pas ça d'un petit garçon. Pourquoi ? Parce que les outils et la possibilité et la permission donnée au petit héros masculin d'être tout de suite, d'avoir le pouvoir, en fait, d'être dans ce monde d'adultes, elles sont dès le départ données, hein. Ce qui est beaucoup moins le cas, enfin, ce qui n'est pas du tout le cas, plutôt, pour la petite fille. Et il y a une dimension, je parlais de la loi tout à l'heure, mais ce qui est passionnant il y a une conflictualité chez Fantomette qui est passionnante, c'est qu'elle est du côté de la loi, revendiquée, même un peu chiante des fois, hein. Enfin, je veux dire, il faut enfermer les méchants,
etc. Oui, j'ai dit ennuyeuse tout à l'heure.
Voilà.
Oui.
Mais fondamentalement, c'est une héroïne qui ne cesse de transgresser. Effectivement, qu'est-ce qu'elle fout avec cet adulte dans sa deux chevaux, à rouler à 100 à l'heure pour s'éloigner hors de toute famille. Elle conduit elle-même. Elle a je crois que c'est, on dit cyclomoteur.
Elle dit cyclomoteur. Dans le livre, c'est dit cyclomoteur.
Voilà, c'est cyclomoteur. Bon, bref, elle a une mobylette, elle a une Vespa, elle a tout.
Plus tard, elle aura un scooter.
Un scooter. Enfin, elle a tout ce qui est totalement interdit à une petite fille. Alors, quel est son âge?
Oui.
Quel est son âge? Je pense que elle est à la fois l'idée de la petite fille et l'idée de la femme adulte. Hein. Et cette idée que pour devenir une femme adulte au sens de quelqu'un qui ne serait pas encore aliéné, tel que James décrit la petite fille aliénée qui ne peut pas intéresser, aliénée socialement, qui ne peut pas intéresser Stevenson, eh bien, il faut transgresser. Je parlais tout à l'heure de la question de la survie, l'idée de l'enquête, il faut devenir une enquêtrice pour avoir ce regard d'élucidation qui est la condition de la survie et de l'émancipation, mais il faut transgresser aussi, hein. Il faut franchir cette barrière sociale qui est stylisée complètement chez Fantomette, mais qui en réalité n'est pas, cette transgression-là n'est pas autorisée aux petites filles et n'est pas autorisée aux femmes non plus. Donc il y a quelque chose de très fort dans ce personnage.
Mais ça, c'est vraiment intéressant, Hélène Frappa, parce que vous avez parlé de méthodologie de Fantomette pour réaliser une bonne enquête, que ce soit policière, philosophique, existentielle. Il faut suivre un certain nombre de règles. Mais alors, quelles sont ces règles à partir du moment où, en fait, tout est fondé sur cette forme de transgression?
Alors, la transgression est l'une de ces règles. L'invisibilité est l'une de ces règles. On est dans la fable inversée de l'anneau de Gigès, la fable platonicienne, hein, c'est-à-dire j'ai un anneau, je le tourne, et là, c'est une fable, on pourrait dire, s'il faut la genrer, non, ne la genrons pas, ça serait vraiment complètement idiot, mais c'est la fable du pouvoir. Hein. C'est-à-dire, celui qui va tourner son anneau et devenir invisible va, dit Socrate, l'utiliser mal. Hein. L'utiliser comme un abus de pouvoir. Fantomette, c'est celle qui est invisible. Elle est dans l'invisibilité. Je parlais des chats de gouttière, du chat noir la nuit. C'est une sorte de chat noir la nuit. Mais quand cette invisibilité, elle ne l'utilise pas du côté du pouvoir. Alors, elle l'utilise pour avoir sa propre, comment dirais-je, son propre pouvoir d'émancipation, mais pas pour être dans l'abus de pouvoir. Donc il y a la transgression, il y a l'invisibilité, il y a l'intelligence, il y a le déchiffrement. Hein. Le fait que, je parlais de Dupin tout à l'heure, et on pourrait revenir à la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire la réalité est un ensemble, enfin nous l'avons sous les yeux, mais encore faut-il apprendre à la déchiffrer, y compris la réalité sociale. En fait, y compris.
Or, c'est ce que Boulotte et Ficelle n'arrivent pas à faire. Ficelle se trompe.
Alors,
elle a des erreurs de jugement et Boulotte est inattentive.
Alors, oui. Disons que Boulotte, elle est elles sont tous les deux. Alors, moi, je dirais pas que Ficelle se trompe parce que Ficelle a compris que une part de ce qui nous était donné, c'était enfin une part de la joie. Elles sont du côté de la joie, on pourrait dire. Est-ce qu'elles sont du côté de la joie? Elles sont du côté de la joie, elles sont du côté du plaisir, plutôt, les deux. Plaisir de manger, qui fait partie de l'enfance, du côté du bébé, on pourrait dire. Ça, c'est Boulotte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de regard, il ne s'agit pas de se moquer d'une petite fille trop grosse. C'est vraiment pas du tout le regard de Cholet. On pourrait dire que ce sont des âges différents. Il y a le début, le bébé, Boulotte, le plaisir de manger, ensuite la découverte du langage, le plaisir de jouer avec les mots qui est Ficelle, et puis ensuite il y a le plaisir du savoir. C'est les trois âges de l'être humain en quelque sorte, ou les trois âges de la femme. Alors le troisième âge, celui de l'âge de savoir, il n'est pas vraiment toujours accordé à la femme. Donc, sachant qu'il y a une très, très, très longue tradition millénaire de condamnation de la curiosité féminine. Là, Georges Cholet s'en empare et en fait, encore une fois, un outil de libération et un outil de joie. La joie de Fantomette, qui effectivement, sinon, serait un peu chiante, c'est la joie de savoir. Assez très humblement, je dois dire, moi ça m'agaçait un peu, parce que je pense pas que j'étais très humble comme petite fille. C'est-à-dire, j'aimais bien savoir, mais j'aimais bien me vanter de ce que je savais. Elle se vante jamais. Elle se vante jamais parce qu'elle doit se douter qu'une femme qui se vante trop de ce qu'elle sait, une femme qui se vante trop de sa grande intelligence, bon, c'est peut-être un peu dangereux. Donc, autant faire ça en douce.
Alors, je l'ai dit, le premier volume de Fantomette, c'était Les Exploits de Fantomette, c'était en 1961. Il y en a eu 53 avec en tout, avec cette petite pause en 87, ça a repris en 2006. Georges Cholet, lui, est mort en 2012 et en 2011. Le dernier Fantomètre, c'est Fantomètre amoureuse. Hélène Frappa, vous n'avez jamais voulu l'ouvrir, vous ne savez pas ce qui se passe. Eh bien, nous allons vous le dévoiler maintenant.
Le disque jockey reste debout, immobile, regardant l'apparition avec de grands yeux. Il murmure.
Fantomètre. Oui, celle que j'ai rencontrée il y a quelques années. Pas de doute, c'est bien toi. Encore plus jolie, on dirait.
Merci, Boublon. Tu n'es pas mal non plus. Bien que tes activités soient toujours aussi répréhensibles. Ça ne s'améliore pas, on dirait. Quand vas-tu te décider à travailler comme tout le monde pour gagner ta vie honnêtement ?
Je suis animateur dans une boîte de nuit.
Oh, je sais ! Et occasionnellement, tu braques les banques. Ne dis pas le contraire, je suis bien placé pour le savoir.
Il scrute le visage de la justicière avec une attention extrême. Et un léger sourire vient éclairer sa figure.
Tu peux m'appeler par mon prénom ?
D'accord, Eric.
Eric, le fils du Masque d'Argent, un des plus grands criminels du XXe siècle. Un de ces savants géniaux, rêvant de conquérir le monde comme on peut en voir dans quantité de feuilletons télévisés. Maintes fois, il a tenté de supprimer Fantomètre qui s'opposait à ses projets abominables. Mais chaque fois, la justicière a évité ses pièges et a fait échouer ses brigandages. Fantomètre quitte la maison, sans se presser, sort le scooter de sa cachette. Met son casque qu'un rayon de lune fait briller. Elle s'installe sur la selle, démarre, commence à rouler. Le disque jockey apparaît sur le seuil, les mains dans les poches. Fantomètre lui fait un petit salut en souriant. Auquel il répond en lui envoyant un baiser du bout des doigts.
Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy.
Alors voilà, Fantomètre est amoureuse, Hélène Frappa. Et alors pas n'importe qui, de Eric, le fils du Masque d'Argent, le grand criminel que Fantomètre poursuit de livre en livre. Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir ça ?
Alors j'avais jamais osé lire Fantomètre amoureuse. C'était, je pouvais pas surmonter. Enfin, j'en étais restée. Il fallait que j'en reste à la petite Fantomètre. Non, je suis alors déjà, j'adore l'idée de qu'elle drague en fait. Elle n'est pas du tout une duche, un beau blond. Donc déjà, elle drague. Et puis, bon, évidemment, il fallait un braqueur pour braquer le cœur de Fantomètre. Donc elle est amoureuse du bad boy. C'est, ça me va.
Puis surtout, à la fin, c'est elle qui s'en va en scooter. Et c'est lui qui reste sur le seuil de la porte.
Et elle lui fait un clin d'œil. Oui, oui. Donc elle est toujours une héroïne... on pourrait dire d'une certaine manière transgenre, quoi, à tous les sens du terme. Elle a un truc, oui, elle est pas du tout nunuche, quoi.
Georges Cholet a écrit une préface à ce dernier livre de Fantomètre amoureuse. Et il pose la question de faire grandir, voire vieillir en fait les super-héros. Il dit ceci. Mickey, Donald, Tintin ou Lucky Luke ont toujours le même aspect, même après des dizaines d'années. Le temps. Temps avec un T majuscule, n'a pas de prise sur eux, ils sont immortels. Mais est-ce bien vrai ? Et notre cher Fantomètre, après 50 ans d'existence, est-ce une grand-mère ou a-t-elle conservé les 10 ans de ses débuts ? Assurément, elle n'a pas pris une ride. Mais finalement, j'ai découvert qu'elle a été ou quelle sera la vie de l'étrange aventurière. Que fait-elle ? Qui rencontre-t-elle ? Si elle a plus de 20 ans, des amoureux lui envoient-ils des textos ? Ces quelques pages vont vous donner une idée de cette existence encore inconnu. Alors déjà, c'est quand même très drôle que Georges Chollet ait commencé à écrire dans les années 60 et parle ensuite de texto. Donc, je dévoile le poteau rose. Ici, Fantomette a 22 ans et elle travaille dans une banque. Et elle décide de remettre son costume de Fantomette parce qu'il y a des disparitions d'argent dans la banque dans laquelle elle travaille. Donc, c'est une Fantomette qui a grandi, mais on pourrait dire qui ne vieillit pas.
Je pense qu'on n'a pas besoin de faire grandir. Alors, il y a quelque chose du testament. Hein. C'est le dernier livre de Georges Chollet, je crois, Fantomette amoureuse. Oui. La vraie amoureuse, c'était Georges Chollet, qui était amoureux, évidemment, de Fantomette. Si, comme encore une fois, je disais, Fantomette, c'était lui ou c'était elle. On n'a pas besoin de faire grandir, je pense, ces personnages-là, puisque c'est nous qui grandissons avec eux. Ils nous permettent de grandir avec eux. Donc, c'est le lecteur hein, qui grandit, c'est la dimension, je disais tout à l'heure, je parlais de la dimension doublement réflexive de Fantomette qui à la fois est celle qui réfléchit et nous fait réfléchir et puis qui nous réfléchit au sens où elle nous renvoie notre propre image mais qui ne cesse de changer. C'est probablement pour ça que j'ai laissé dans mes tiroirs les deux Fantomettes que j'avais écrit moi-même vers
votre
une vingtaine
héroïne s'appelait d'ailleurs Fantomette.
Absolument. Et elle était en effet une adulte, une justicière adulte. Alors dans l'un des cas, elle était vraiment, c'était une version tarantinesque un peu. Elle était vraiment déchaînée, c'est-à-dire elle prenait un peu tout au pied de la lettre et elle butait carrément les méchants. Mais au fond, il y a pas besoin. Hein. Mm. C'est ça qui est très beau.
Oui, fait, mais c'est aussi
cette
tragique.
Dimension réflexive. Pas du tout.
Mais cette idée que les héros qui nous ont accompagnés dans notre enfance, finalement, on est un peu obligé de les laisser là où ils sont, en fait.
Mais c'est-à-dire ils sont en nous.
On a envie de les retrouver tels qu'on les a goûtés la première fois, et le plaisir ne revient jamais de la même manière.
Alors pour moi, si. Et surtout, à la limite, même si le plaisir ne revenait pas en ouvrant le livre, il est en nous. Ils nous ont constitués, ils sont là, ils sont une part de nous. Et c'est ça qui est tellement, tellement bouleversant. Il y a une part de nous qui est cette petite fantôme, une part de nous qui est cette enquêtrice, une part de nous qui... moi, c'est vrai qu'on... vous parliez au début de Trois femmes disparaissent. J'étais frappée parce que, bon, évidemment, le hasard n'existait pas.
Quel titre de votre roman ?
N'existe pas, je le disais. Mais j'ai choisi Fantomette. Puis après, je me suis rendu compte que, bon, bah, il y a trois femmes qui disparaissent. Pourquoi ? Elles sont pas mortes. Je suis retombée sur une phrase sublime de l'écrivain italien Leonardo Sciascia qui dit « Les morts se retrouvent, seuls les vivants peuvent disparaître. » Il y a quelque chose de ça, en fait, c'est-à-dire il y a ces trois petites filles, parce que c'est trois figures de la petite fille, je disais, elles sont triples en même temps, mais elles sont là en nous. Et comme disait James, qu'est-ce qu'une femme sinon une petite fille qui a grandi ? La petite fille est encore là et en même temps elle a grandi et nous avons grandi avec elle. Non, il y a rien de tragique là-dedans. La tragédie, ça serait, on pourrait dire, serait la finitude, le fait qu'à un moment ça s'arrête, mais ça s'arrête pas pour elle. Donc elle échappe à ça.
Cette chanson d'Elton John, I Don't Care, pour introduire cette séquence de fin d'émission. Hélène Frappa, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, Fantomètre de Georges Chollet, place à un auteur que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas, ou alors que vous comprenez très bien, mais que vous n'aimez pas, ou alors dont vous fichez complètement, comme Elton John. Qui avez-vous choisi ?
Alors, autant je n'ai eu aucune difficulté à me souvenir de qui j'aimais, autant qui je déteste, c'est pas mon truc. J'aime pas tellement détester, donc je me suis vraiment creusé la tête, parce que quand j'aime pas un livre, je le referme aussitôt. Alors, il y a un livre vraiment qui m'a marqué parce qu'il m'a exaspéré. Je l'ai trouvé vraiment, mauvais en fait. C'est le roman culte d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, que j'ai donc fait l'effort de réouvrir les 1100 pages. Alors, je sais plus qui disait 100 ans de solitude, 50 ans auraient suffi. Là, il y a 1100 pages, je trouve que 100 auraient suffi. Enfin, selon ma propre pratique. Assez simenonienne de l'écriture, c'est-à-dire où il s'agit de retrancher beaucoup d'adjectifs. Alors, en le relisant un peu, je me suis dit finalement, le hasard n'existe pas. C'est la
phrase du jour.
La phrase du jour et la phrase de l'année 2025 même. Parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait et qu'est-ce qui me déplaît tellement dans ce livre? Je citais Henry James, qui pour moi est un de mes écrivains préférés, qui ne cesse de m'accompagner, dont le génie ne cesse de m'accompagner, qui a eu cette phrase extraordinaire. Une femme née est une petite fille qui a grandi. Au fond, Belle du Seigneur, c'est l'histoire non pas d'une petite fille, d'une femme qui serait une petite fille qui a grandi, mais d'une petite fille qui a vieilli. C'est ça que ça raconte.
C'est l'histoire entre d'amour toxique, avec les termes d'aujourd'hui, entre Ariane et Solal, finit par la mort.
Exactement. Alors, c'est l'histoire d'une vieille petite fille et de la répulsion qu'inspire dans le point de vue du livre, alors sans doute à l'auteur et au personnage, donc à cet amant de la vieille petite fille, c'est vraiment moi, c'est un peu tout ce que je déteste dans.
Donc dès que vous l'avez lu, vous l'avez détesté, parce
que
il y a plusieurs lecteurs aussi de Belle du Seigneur, lecteurs, lectrices, qui voit dans ce livre vraiment quelque chose de magnétique. C'est vraiment un livre qu'on ne quitte pas, dont les 1100 pages se lisent, mais qui, au fur et à mesure des années, en viennent quand même à émettre des critiques. C'est vraiment, cette lecture est quand même, véhicule quand même une certaine représentation de l'amour qui est problématique, qui en fait n'est pas un amour qui rend heureux, mais un amour destructeur. Voilà, il y a quand même, les deux mouvements peuvent cohabiter.
Alors, je parlais tout à l'heure d'élucidation et émancipation. On n'a aucun des deux dans Belle du Seigneur, à mon avis. Alors déjà, moi, c'est la question du point de vue. Tout à l'heure, je disais, Chollet aurait pu dire Fantomètre, c'est moi. Évidemment, je pense à Flaubert, qui est un de mes écrivains préférés. Mais je pense qu'on n'a pas encore pris certains lecteurs, apparemment, n'ont pas encore pris la mesure de ce que fait Flaubert dans Madame Bovary. Avec, en effet, cette idée que Madame Bovary, c'est lui en tant qu'écrivain, en tant qu'il l'écrit, en tant qu'écrivain qui disait Flaubert. Vous voyez, je parle des auteurs que j'aime, j'ai du mal à parler de ceux que j'aime pas, s'opérer du cancer du lyrisme. Bon, c'est clair que le cancer du lyrisme dans Belle du Seigneur, on l'a du début à la fin. Il y a, pour la question du point de vue, elle est concrète, elle est charnelle, elle est incarnée dans l'écriture, c'est la phrase, c'est par exemple, ce que moi j'appellerais j'appelle ça une littérature pour aveugles, moi. Récemment, alors pour le coup, pour citer un best-seller, je vais pas me faire des amis, il y en a un que j'ai pas du tout aimé de ce point de vue-là, qui est la très longue série de Elena Ferrante, L'amie géniale.
L'amie prodigieuse.
L'amie prodigieuse, voilà. C'est-à-dire cette idée d'un auteur qui vous force à voir avec un abus d'images et un nombre d'adjectifs, c'est-à-dire qu'il faudrait que la Constitution, je ne sais pas, interdise qu'il y ait autant d'adjectifs dans une phrase. Il y a quelque chose dans le côté quantique des cantiques. Bon, moi je suis un peu allergique aux cantiques des cantiques. Et dans ce point de vue, effectivement, qui est collé à cette relation fusionnelle, à cette idée morbide que ça ne peut s'achever. Enfin bref, ce livre me tombe des yeux et me tombe des mains. C'est vraiment le contraire pour moi de ce que fait pour le coup Flaubert dans Madame Bovary ou ce que fait Tolstoï dans Anna Karénine. C'est le contraire même. Et cette figuration, pour le coup, du destin de la femme comme simplement vieillir comme une une vieille petite fille, je trouve ça vraiment assez atroce.
Merci beaucoup, Hélène Frappa. De vous, on peut lire « Trois femmes disparaissent », qui vient de paraître en poche, qui est aussi disponible aux éditions Actes Sud. « Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes » paru aux éditions de l'Observatoire. On lance aussi un appel très rapidement pour la réédition des fantomètres par la Bibliothèque Rose, car ils sont arrêtés. Un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, Riyad Kera à la réalisation, François Saint-Jour à la prise de son. Toutes les émissions sont réécoutables sur le site de France Culture et l'application Radio France.